bord de la rivière Saint-Charles. Boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
Hello, ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CHYZ 94.3, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Il est 4 heures.
Bon mardi tout le monde, on est le 21 septembre, on est dans le lendemain d'élection. J'espère que vous les avez gagnées vos élections. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler d'art et de culture. Évidemment, c'est l'émission Chérie, j'arrive. Mon nom est Félix Duchesne et on est ensemble jusqu'à 17h30. On va commencer aujourd'hui avec la chronique Le gars des vues. C'est de Alex Baillargeon qui va venir me parler des Gémeaux, le gala de la télévision qui a eu lieu en fin de semaine. Je vais parler aussi avec Saint-Sucré qui a sorti Gin and Cassettes. C'est un nouvel album qui est sorti vendredi. Je vais parler aussi avec Émilie Lapointe qui va venir me faire sa chronique Party Mix. J'ai bien hâte de voir de quoi est-ce qu'elle va me parler au niveau cinéma intemporel. J'ai des nouveautés, des sujets talk, des nouveautés à l'international. J'ai aussi parlé avec Catherine Côté qui a écrit Renverser à l'ananas. J'ai beaucoup, beaucoup de musique à vous faire écouter pour l'émission de Chérie J'arrive du 21 septembre qui commence maintenant.
Je crois que je t'aime un peu. Il me dit ramène les sous autour de moi. Quelques animaux, des hyènes, des loups. Pour moi tout est inégal, pour lui c'est le tout idéal. Je m'en vais écrire Nimbo pendant que le loup n'y est pas. Il me dit ben oui viens-t'en ma belle. Relax c'est pas de stress. Détends-toi, mets-toi à l'aise, défais ta petite tresse. Il me dit regarde bien chérie comment t'es plus belle qu'elle. On deviendrait riche si on transformait ton nom en URL. La petite te prise avec envie de soumission. Dans ses gènes oui elle peut l'encaisser l'oppression. Maman lui dit c'est pas bien, la voisine dit y'a rien là. Sur internet voit 100 fois pire alors se dit pourquoi pas. So elle part sa fleur dans le fond d'un basement crasse. La honte la pèse, la pauvre lui pète la face. Je m'en vais prendre des forces, endurcir mon écorce. Cendrillon se balade de lit en lit. Elle a perdu son soulier, sa culotte aussi. Cendrillon se balade de lit en lit. Elle a perdu son soulier, sa culotte aussi. Ma petite sœur connaît pas l'amour mais veut le partager à trois. Elle suit le lion dans sa cour et l'aide à ravager sa proie. En méthamphétamine, à codéine, elle lean back. Plus d'inhibition, plus de trac, dis-lui qu'elle est ta petite garce. Comme dans les films, sans aucun filtre, elle triple X. Au nom de la liberté, chante l'hymne du premier fixe. Du L entre corps et l'esprit, ma petite sœur nubile. Triple W, juvénile, elle est monsieur jubile. Il veut une poupée, du chiffon, m'amener. Jouer dans les bas-fonds avec quelques gentils garçons. Mon petit chaperon, loup te mange et tout rend. Vas-y, essaie d'oublier, essaie avec l'herbe et loup blanc. T'apprendras à aimer sans les larmes, les coups. Ils sont bas, les couilles, vas-y compte les sous. T'aimes plus mon joual, sale, non? Sauf quand tombe le soir, ouais. Cendrillon se balade de lit en lit. Elle a perdu son soulier, sa culotte aussi. Cendrillon se balade
tombe à part à toi qui crie. Montez te zéradir, Arakiri. Il est monté te faire l'amour ou plutôt te casser les côtes. Bien attendu, ton tito venu te montrer à qui la faute. Et allô, allô, allô. Allô, allô.
Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est maintenant le temps de la chronique. Le gars des vues, Alex, tu pensais faire des chroniques à chaque deux semaines. Là, je t'ai demandé de participer cette semaine parce que dimanche, il y a eu le 36e gala des prix Gémeaux. Cette remise de statuettes qui est évidemment plus pour le côté télévisuel. On a inclus là-dedans aussi le numérique qu'on se doit d'inclure. C'était animé par Alice Pascal et Richardson Zephyr. Comment t'as trouvé ça? D'abord, bonjour.
Oui, salut. En fait, ça, c'est le gala de l'industrie.
Oui, c'est
les
ça.
Les animateurs du gala de l'industrie, dans ce cas-ci,
ouais.
On y a donné une visibilité cette année, ce gala-là, d'habitude, qui est dans l'ombre.
Ouais.
Pour le gala de l'industrie, bon, en général, c'est beaucoup plus les réalisateurs, producteurs et tout ça qui
c'est
vont
ça.
Être récompensés.
Ouais.
Les galas, les autres galas télé, en fait, il y avait le gala d'ouverture. Donc, au lieu d'être l'autre gala ou le premier gala ou le gala d'après-midi, il s'appelle maintenant le gala d'ouverture.
Ben, c'est charmant.
Il est diffusé maintenant le soir, donc c'est un peu l'espèce de promotion, comme le disait Chantal Lamarre elle-même, qui en était l'animatrice. On donne le plus de trophées possible en le moins de temps possible.
Okay.
Donc on enchaîne littéralement les trophées qui sont remis. Dans ce gala-là, notamment, il y avait des catégories quand même assez importante, on va dire que normalement on retrouve dans des galas comme le gala artiste,
ouais.
Notamment pour les meilleurs spéciaux humoristiques.
Mm-hmm.
Il y a notamment eu Infoman 2020 qui a été récompensé pour un spécial,
oui.
Dans les catégories séries. Il y a eu Entre deux draps de Mathieu Pepper.
Mm-hmm.
Pour les variétés, c'est En direct de l'univers qui est reparti avec meilleure série de variété et meilleure spéciale de variété pour le party du jour de l'an.
Mm-hmm.
D'ailleurs, France Beaudoin a remporté meilleure animatrice au gala principal. Elle a
ouais.
remporté le prix du public voté par les gens pour émission préférée des spectateurs.
Mm.
C'était vraiment la consécration pour France Beaudoin et son émission. Chose qui n'était pas arrivée justement au gala artiste où Guy Jodoin avait remporté pour le tricheur, mais ça a été corrigé grâce aux Gémeaux avec, dans le cas de France Beaudoin, qui a remporté multiples trophées dans cette soirée-là.
Juste avant d'y aller pour les gagnants-gagnantes qui ont été marquants selon toi, j'aimerais ça qu'on établisse une différence concrète entre le gala artiste et le gala des prix Gémeaux, parce que là, pour moi, c'est un peu, on comprend pas. Là.
C'est, mais le gala artiste, c'est que c'est voté par les G-Market et c'est le public qui vote.
Okay.
Et dans le cas du gala artiste, on vote pour les personnes.
Hmm.
Donc, ça peut donner quelques flous ou faire gagner des gens qui n'auraient pas nécessairement gagné si on avait spécifié. Tandis que dans le cas du gala des Gémeaux, c'est l'Académie de la télévision canadienne. Il y a un comité.
Donc, ça serait plus critique ou ça serait plus... c'est de l'industrie.
Oui, c'est des gens de l'industrie, littéralement. Il y a mm-hmm. des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des scénaristes,
ouais.
Il y a vraiment des gens, il y a même des monteurs d'images. Fait
mm-hmm.
que, c'est vraiment un gala d'industrie.
Ouais.
C'est vraiment les pairs qu'ils font, tandis que le gala artiste, c'est vraiment un concours de popularité.
Okay.
C'est vraiment ça la
okay.
grosse différence. Comme et dans le cas de l'Académie, même, on met en nomination des émissions.
Mm-hmm.
Ce ne sera pas le show complet. Ça va être, par exemple, en nomination pour, comme je l'ai ici, meilleure réalisation, Bête noire, épisode 6.
Okay.
Gagnant, meilleure réalisation, Alerte, épisode 1.
Donc, c'est vraiment... C'est
du, on est beaucoup plus précis. Dans le cas du gala des Gémeaux, on met en nomination des émissions. On en met deux ou trois, je pense. Et on envoie ça à l'Académie. Donc, on se base sur ces épisodes-là parce qu'évidemment, si on disait on met notre saison de 24 épisodes en compétition contre les 12 épisodes de celle-là,
ouais.
contre les 26 de celle-là, ça serait interminable de déterminer un gagnant,
donc,
on va dire.
Pour résumer le tout, si on mettait Chérie J'arrive à ces deux galas-là, pour artiste, ça serait le public qui voterait pour toute l'émission de toute, admettons, toute la saison automnale.
Même puis, ça serait l'animateur.
Ça serait... D'accord. Puis du côté des Gémeaux, ça serait comme l'émission d'aujourd'hui, le mardi 21 septembre, cette émission-là qui aurait été soumise à...
C'est ça, tu pourrais sélectionner tes trois meilleurs épisodes selon toi et on les envoie... On les envoie de cette manière. Ben, techniquement, si il y avait des caméras dans le studio, ça pourrait...
Bref, allons-y avec ceux qui t'ont marqué. Moi, il y a entre autres la série documentaire Nos élus avec Martine Forant qui, c'est de l'industrie, on la reconnaît pas, mais moi, je la connais, je la salue pour cette belle victoire. En as-tu d'autres qui t'ont passé sous les yeux, que t'as dit « Ah, ça, je connais ça, puis
Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont eu leur premier trophée, notamment dans la catégorie, toujours dans l'avant-première, dans la catégorie interprétation masculine pour une émission, une série produite pour les médias numériques. Il y a Hugolin Chevrette qui a remporté son tout premier trophée. Même chose pour interprétation féminine pour une émission ou série produite pour les médias numériques dans la catégorie comédie avec Rosalie Vaillancourt qui a obtenu son tout premier trophée Gémeaux. Sauf erreur, meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques jeunesse, Jonathan Roberge, ça serait également son premier trophée. Évidemment, il n'était pas au gala parce qu'on connaît toute l'histoire entourant son fils aîné qui combat un cancer en ce moment. Donc, on a pas manquer l'occasion de le souligner d'ailleurs par les animateurs de cette catégorie-là.
Jonathan Roberge, lui, c'est lui qui s'est fait connaître avec
la série Fiston, notamment, qui est devenu papa à TVA, qui jouait justement avec son fils Xavier, qui en ce moment est hospitalisé. Mais tout est dans tout, on va dire comme ça. Sinon, pour le gala principal, donc le gala télé de Véronique Cloutier, qui était dimanche soir, gala très correct.
Et l'ouverture, par contre, c'était grandiose.
C'était grandiose, oui, mais...
Ça se voulait grandiose, en
fait. Ça se voulait, oui, effectivement. Ça se voulait grandiose comparativement à d'autres années où ça se veut beaucoup plus humoristique, beaucoup plus caustique. On fait des jokes sur un peu tout le monde. Là, c'était un autre début de gala, on va dire. Quelle pandémie nous avons
eu. C'est
ça. Nous revenons
avec
à la normale.
Images, avec des images, avec des masques.
Voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, ça allait,
c'est redondant.
Puis même les numéros de présentation, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient humoristiques. Il y a, à la limite, on va dire, j'ai Pierre-François Legendre, mais c'est vraiment pas ça son nom. C'est l'ex de Rosalie Vaillancourt, justement, Pierre-Yves Roy Desmarais, qui a fait le seul numéro humoristique, on va dire, avec Véronique Cloutier, qui comme « Oh, ça tue de l'allure! » Puis les faces qu'on connaît de Pierre-Yves Roy Desmarais. Mais sinon, à part de ça, il n'y a pas eu vraiment de moment drôle ou quoi que ce soit. Il y a Guy Jodoin qui a abusé, par exemple, pour ses remerciements, parce qu'il connaissait le gars de la musique, fait qu'il a demandé d'arrêter la musique deux fois pour être certain de finir ses remerciements et de lancer son message qui était essentiellement... aux producteurs et aux diffuseurs, arrêtez de regarder les codes d'écoute, laissez les séries vivre, tu sais, tirez pas la plug après seulement une saison. Je sais clairement que c'est à cause d'Esquad 99 qui disait ça, parce qu'il s'est défendu en disant, tu sais, le télépirate dans le temps, les gens disaient que ça durerait pas longtemps, le tricheur, le monde disait que ça durerait pas longtemps, puis on est encore là. Le problème, Guy Jodoin, c'est que Esquad 99, c'est une copie. C'est un remake qui a été énormément critiqué, qui est encore un petit... J'ai été dur avec Esquad 99 quand c'est sorti moi-même en disant que c'était pas particulièrement bon. Je l'ai écouté cet été. J'ai vraiment fait abstraction du fait qu'il existe une autre version meilleure que celle-là. Et ça fait la job.
Okay.
Mais est-ce que défendre cette émission-là précisément en disant « Non, 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 donnez-y une chance qu'on fasse les 10 saisons complets. » Non, pas ce point-là. je pense qu'on va peut-être en faire une troisième si tout va bien, mais ça risque d'arrêter après ça. Revenons aux catégories.
Oui.
Dans les surprises, pour ma part, meilleure émission, série d'entrevues ou talk show, c'est allé à Patrick Huard pour La Tour. Il y a réellement un buzz autour de cette émission-là. Je pense qu'on a un peu sous-estimé, justement, Patrick Huard là-dedans. Donc, plutôt que d'aller à une France Baudouin pour emporter...
Ouais.
ou Guillaume Lepage, pour Tout le monde en parle.
Guillaume Lepage, c'est par expérience, mais France Baudouin, qui est l'animatrice, pour moi, c'est classique animation. Le Patrick Huard, un humoriste qui se prête au jeu. Guillaume Lepage, ça va être par expérience, qui est animateur. Il
était aussi en nomination Julie Snyder avec La semaine des 4 Julie. Fait que c'est pour ça que Patrick Huard reparte avec le trophée. Même lui, t'es quand même un peu surpris. Fait que je pense pas que c'est de la fausse modestie non plus. Je pense qu'il s'y attendait plus ou moins aussi. L'autre était... c'est pas France Baudouin n'était pas dans cette catégorie-là. Mon erreur, mais c'est plutôt Jean-Philippe Vautier avec Bonsoir, Bonsoir, saison 2 qui s'y retrouvait. Fait que tu sais, c'était l'une des surprises, du moins pour le gala principal et quelqu'un qui s'y attendait pas. Ouais. Sinon, dans les autres catégories, ben on a on a donné à Bête Noire, meilleure série dramatique qui était sur les ondes de Série Plus, qui était un principe de base que c'était un jeune qui rentrait dans une école secondaire et qui tuait du monde. Les parents ont-tu gagné interprétation? Pas tout à fait, mais Isabelle Blais a gagné, mais pas son comparse masculin, qui est plutôt allé à Théodore Pellerin, lui-même également surpris pour la série. Patrick Sénécal présente l'épisode 2, l'audition. Sinon, autre trophée qui était difficile de ne pas être récompensé, Michel Charette pour District 31 dans un premier rôle masculin dramatique annuel. Ouais. Sinon, Maud Guérin, surprise également pour remporter à 5e rang en tant que premier rôle féminin dans une dramatique annuelle. Et sinon, émission qui sera éventuellement à la télé, premier rôle féminin dans une comédie, c'est allé à Christine Beaulieu pour L'œil du cyclone. Et c'est ça que je disais qui était drôle, c'est que Guy Jodoin a remporté premier rôle masculin dans une comédie pour Escouade 99. Et personnellement, Guy Jodoin est le moins drôle d'Escouade 99 de toute la gang. Donc, je trouvais ça particulier que ce soit lui qui remporte. Et sinon, mon point d'interrogation que j'ai encore cette année, c'est pourquoi la série M'entends-tu se retrouve dans la catégorie comédie. Tant qu'à moi, ça ne fait aucun sens que ce soit là-dedans. Et même, je pense que Eve Landry, quand ils ont dit « Rôle dans une comédie, Eve Landry, pour M'entends-tu? » L'extrait qu'on monte est en train de pleurer. Puis elle-même, on lit sur ses lèvres « Comédie! » Tu sais, c'est en voulant dire « On est dans la catégorie comédie. » Je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle par bout, mais c'est beaucoup plus une dramatique. Ouais. Une comédie dramatique à la limite, mais beaucoup plus dramatique que comédie. Surtout pour les thèmes. Les thèmes qui sont abordés dans cette série-là. Ouais. Fait il y a peut-être une égalité. Qui les a inscrits dans la catégorie comédie? J'ai envie de poser la question, mais sinon, c'est le seul point d'interrogation qu'il y a eu dans toute cette série-là. Sinon, la plupart des émissions étaient diffusées, ce qui est une bonne chose. Mm-hmm. Sinon, quelques émissions qui vont être diffusées, parce qu'évidemment, si c'est sur Tout.tv, c'est admissible pour le gala des Gémeaux, même si ça n'a pas été encore à la télé originale. Ouais. La télé traditionnelle, même chose pour le Club Illico, c'est déjà dans la période de candidature, ça peut se retrouver là. Ouais. D'où justement pourquoi Christine Beaulieu a remporté un trophée pour une série que techniquement le grand public n'a pas encore vue. Même chose pour Théodore Pellerin, qui sont très bons les deux dans leurs séries respectives, mais que le grand public a dû faire « Ah, j'ai pas regardé ça, cette émission-là. » Normal, c'était sur Internet.
Et voilà.
Et à la télé cet hiver, probablement.
On va continuer à suivre ça et on va continuer à te recevoir l'émission Chérie J'arrive pour ta chronique Le gars des vues. Merci Alex d'être venu me faire un retour sur le prix Gémeaux autant de l'industrie que le gala grand public.
Ça fait plaisir.
Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait je dédié à ma ville, dédié à mon sport. 5-1 jusqu'au cap, je suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait je dédié à ma ville, dédié à mon sport. 5-1 jusqu'au cap, je suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait je non, je suis des ouais, je suis un gars de la ville. L'odeur qui s'échappe, des balles qu'on les klaxons. Touche pas le mic, c'est avec tes pas habile. Les graphs all around du trottoir jusqu'au plafond. Mon slogan sky, y'a l'air d'un gratte-ciel. J'roll dans le deep comme Adele dans les ruelles. Mon dodge, les dodge, j'ai la peau pourrie cruelle. Mon chien va pop comme une seringue dans une poubelle. Rien qui m'arrête comme s'il y a pas de parking. Tu vas me spot comme un chat qui tourne autour du HLM. Ah ouais, écoute ce que j'vois dans le télescope. Flip un pack, toi ça, bénévole, m'envole. Spit dans le musée des beaux-arts. Stack up les bars comme des dollars.
Je suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait je shout comme un rock commercial. Kick body down, je fume la berucam. Monster, pour me serve, me sens comme au full arm. Quand ça a l'air d'un film triste, nous autres on full drame. Funny deep dans boucan, c'est pas du smoke. À 12 ans, j'étais là en enfer, Jésus, je les slug. Les SDF à ta fenêtre de char pour des pinottes. Prochaine station, la métropole, on s'en va. Le rap comme un home team pour le hometown. Montréal, c'est un diamant qui danse comme money. Au son des cloches, j'suis pas mon money. C'est la montagne en train de talk le Maui Waui. Le moto stay still, mon prick Kawasaki. Solide sur le béton comme Yamakasi. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait j'le. Dédié à ma ville, dédié à mon spot. 5-1 jusqu'au Cap. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait j'le. Dédié à ma ville, dédié à mon sport. 5-1 jusqu'au Cap. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je reste dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait j'le.
Real City, c'est le hometown. De Snowdown jusqu'à la station Saint-Michel. Chilling dans la petite Italie quand on sert le ceviche. Devant le centre Léonard de Vinci à Saint-Léo, c'est le shit. Attendez-moi au spot, dites au gars que j'arrive. Fuck Oshiaga, on a le parc, Jari. East side, west side, on n'a pas peur des backlash. Ça se réchauffe comme un kombucha qui traîne au parc lave. Chante un clip tourné dans un penthouse. J'drague la serve sur la terrasse du warehouse. Le racket dans la ville, je suis reconnu par le caissier. Raton dans la ville comme un grave du K6. Back de backwood sur la 4ème rue. Passe au couche d'art pour un Nicolas Lalou. Ensuite on fuck devant le movie comme au cinéma l'amour. Et dans la line, ça paraît que mon nightlife est pas à jour, hein. Je passe et chercher Jesse, on va checker 4. Pull up en 4-4 au boulevard 4-4. Elle vient pas d'ici, entend parler, elle veut voir. Parce que d'où elle vient, c'est dry comme une grouillade à l'abreuvoir. Si t'as pas hustle dans le style, t'as perdu du temps. C'est la canicule et personne fouette pour faire du vent. J'suis sur un move, mais en calme si ça nous tente. J'suis en tu is là, où ça vend des substances ragoûtantes. Tu peux te faire G-check, en somme qui va là. Finir par te piquer comme le pique-lisse du Tivana. Dope est la substance qui l'inala. Ça le fait dépeindre des images qui riment à l'art. J'vais les racks in it, trust me, j'mène une vie de malade. Le gaz sur le top du Mont Royal, c'est comme l'Himalaya. Mon boy a le meilleur lard dans l'aile. Je l'ai fumé dans ma chambre, je me sentais comme au centre Bell, fallait que je le.
Dédié à ma ville, dédié à mon spot. 5-1 jusqu'au Cap. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait que je le. Dédié à ma ville, dédié à mon spot. 5-1 jusqu'au Cap. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. Je rex dans ma chambre, me sentais comme au centre Bell, fallait que je le.
Chacun sa ville. Chacun sa ville, trop de coups bas. On se dit d'ici là, on se dit d'ici là. Ça va se passer d'ici là. Chacun sa ville. Chacun sa ville, trop de coups bas. On se dit d'ici là, on se dit d'ici là. Ça va se passer d'ici là.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive, vous écoutiez God de la Ville, c'est une collaboration avec Raccoon, c'est une chanson du rappeur Saint-Sucré, c'est sur son projet Gin and Cassettes, et j'ai maintenant la chance de le recevoir par appel téléphonique. Salut Saint-Sucré, ça va bien?
Yes, ça va bien, toi?
Oui, on est là parce que vendredi, t'as release justement Gin and Cassettes avec plusieurs collaborations. C'est un projet qui va dans le même sens que Dazed and Confus. Ben, Dazed et Confus, ouais. Devrais-je même dire, que t'as sorti dernièrement en 2021. T'avais aussi sorti Ma Bad qui, on s'en parlait un peu juste avant cette entrevue, que t'as changé de direction. Quand on se parlait de Ma Bad, on te posait des fois la question, serais-tu capable de faire du boom bap? Et je sais pas si c'est dans une entrevue ou si c'est quand on discutait, mais t'as dit, le boom bap, ça s'en vient, soyez prêts. Puis là, ouais. Le boom bap existe, il est là. Comment est-ce qu'on se sent après avoir release Gin and Cassettes?
Ah, je me sens bien, man. Comme ça, pour moi, c'est l'album d'une vie, là. C'est comme mon Reasonable Doubt, tu vois.
Okay.
C'est quand j'ai commencé à rapper, je faisais du boom bap.
Ouais.
Right. Pour moi, c'était naturel de faire ça, mais par contre, avec le temps, avec l'expérience, c'est quelque chose que je maîtrise encore mieux aujourd'hui. C'est le trap, ça m'a permis de maîtriser plus ma voix,
ouais.
D'expérimenter et tout. Fait que là, mettons, c'est comme j'ai des nouvelles aptitudes, mais je retourne à ma source.
Mm-hmm.
Et ça fait que je le fais avec plus de confiance, avec plus de maîtrise.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai envie de dire aussi que ça montre ton talent, ta polyvalence en tant que rapper, parce que il y en a qui disent ceux qui font de l'autotune, c'est parce qu'ils ont pas de bars, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent, ils savent pas comment rapper.
Exact.
Mais là, tu leur montres en pleine face. Comment est-ce que ça s'est enregistré, ce projet-là? Tu me disais que ça faisait longtemps quand même que t'as ça dans le hard drive, comme on peut dire, mais comment ça s'est enregistré?
dans le fond, j'ai rec ça dans ma chambre, je me sentais comme au Centre Bell. C'est vraiment le même, ça s'est passé. Là. Je suis là en ce moment en plus.
Ouais.
Tu sais, j'ai un vieux micro que mon père m'avait donné il y a très longtemps. Mm-hmm. Un AKG qui est très vieux, qui date. À un moment donné, je pensais qu'il était brisé. Puis après, j'ai fait des cours à Miss Technique. J'ai su c'était quoi un Phantom Power. Mm. J'ai su que dans le fond, mon micro, je l'avais juste jamais vraiment ouvert. Genre.
Oh my God.
Après comme 3 ans qu'il n'était pas actif, je l'ai utilisé, je commençais à l'utiliser. Puis après ça, j'ai commencé à faire plein de projets. Mm-hmm. Puis Gin et Cassette, c'est ça, ça s'est tout fait dans ma chambre. Au début, je voulais essayer de créer comme un film un peu.
Ouais.
Je voulais faire, c'est pour ça qu'il y a plusieurs skits dans le projet. Je voulais mm-hmm. faire comme un. Tu sais, à la base, c'était 3 parties séparées. À un moment donné, je vais poster une photo que je vais indiquer vraiment c'est quoi les 3 parties.
Okay.
Puis c'est vraiment une progression. La première partie, c'est comme un spectacle. Mm-hmm. La deuxième partie, c'est comme le rappel. Puis la troisième partie, c'est le after party un peu. Mm. Fait que c'est vraiment comme il y a une suite logique à tout ça. Puis c'était beaucoup d'expérimentation aussi avec les skits.
Mm-hmm.
C'est quelque chose, les premières fois que je faisais ce processus-là comme ça.
Mm-hmm. Ben, on va laisser aussi l'auditoire écouter ce projet-là parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de skits ou d'interludes qui nous permettent de comprendre ton concept. Ouais. Il y a une suite logique dans tout ça. J'ai le goût aussi de parler des gens avec qui tu as décidé de t'entourer. Il y a Cat Boom, on a entendu Raccoon sur Gars de la Ville. Il y a JC que je connaissais pas, aussi Cora Madina que je connaissais pas. Et l'album se termine avec Zella Edna. Donc, parle-moi un peu de ton entourage sur cet album-là.
Oui, Cat Boom, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
Okay.
C'est à la base quelqu'un qui était dans le groupe Amalgam.
Ouais.
C'était un peu comme le RZA de l'Amalgam.
Ouais, vraiment.
Il y avait comme la vision artistique tout, beaucoup. T'sais. Puis moi, étant plus jeune, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup look up to.
Ah ouais.
Je m'inspirais beaucoup de lui. Fait que pour moi, c'était juste comme un honneur de l'avoir sur le projet.
Mm-hmm.
Puis, dans un moment où maintenant, moi aussi, je produis, moi aussi, je suis un peu dans cette zone-là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui a été le fun à faire. Il y a aussi, for sure, JC. JC, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand même récemment. Puis, la première fois que je l'ai entendu chanter, je capotais. J'étais comme, OK, ouais, t'es bien trop talentueux. Puis, en même temps, il y a une super plume.
Mm-hmm.
Fait que, c'est quelqu'un que j'ai tout de suite voulu travailler avec. Puis c'est ça aussi, c'est ça, il y a Cora. Cora, c'est une chanteuse aussi que j'avais rencontrée il y a comme 2 ans de ça. Puis on a gardé contact. Elle, ce qui est arrivé en fait, là, ça, c'est quand même spécial. T'es toujours là?
Oui, oui, oui.
Ouais, OK, cool. Mais dans le fond, elle, ce qui est arrivé avec elle, c'est qu'elle m'a envoyé ses vocales pour le remix de Naya.
Mm-hmm.
Les vocales qu'on entend, ça c'était le remix de Naya à la base.
Mm-hmm.
Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, non, j'ai repris ses vocales, puis j'ai tout refait un beat avec, puis je l'ai envoyé, puis il était super down. Fait qu'on est allé dans cette direction-là. Ça, c'était dope. J'étais content de ce que ça avait donné. Elle aussi, je suis content aussi qu'elle m'ait fait confiance pour ça. Là. Puis sinon, c'est ça. Après, on a aussi Xella. Qu'elle aussi, c'est une artiste hyper talentueuse que mm-hmm. j'ai découvert à travers la fourmilière.
Ouais.
Puis elle aussi, dans ma tête, c'était comme clair qu'un jour, je voulais avoir une collaboration avec elle.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, dans le fond, j'avais une track déjà faite où il me manquait un refrain, j'avais un petit concept et tout. Puis je lui ai envoyé, elle m'a renvoyé un refrain, je capotais bien raide.
Puis ça finit bien l'album aussi.
Ouais, vraiment, vraiment. Merci.
Fait que j'ai envie de te dire pour un projet comme ça que tu avais déjà des chansons, que tu as retravaillé des chansons, que tu as collaboré avec des gens. Pour la suite des choses, ça veut dire que t'es présentement en train de travailler sur du nouveau matériel, j'imagine?
Ouais, c'est sûr. Ben, pour vrai, là, sincèrement, j'ai déjà 2 à 3 projets qui sont déjà prêts. La seule raison pourquoi ils sont pas déjà sortis, c'est que je laisse les trucs respirer un petit peu.
Ouais.
Je veux pas juste comme tout sortir one shot. Surtout que le projet Gin et Cassette, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
Mm-hmm.
C'est quelque chose que je veux laisser le temps au projet de vivre puis de faire son temps puis de faire son chemin. Fait que c'est sûr, je vais laisser ça breathe, mais comme j'ai au moins 2-3 projets déjà de prêt. Puis au shout à Raccoon aussi. Raccoon, ça, c'est quelqu'un que j'ai toujours voulu feat avec. Mais, tu sais, je faisais des trucs un peu flyés, mm-hmm. justement, Naya puis tout. Puis on aurait pu faire de quoi dans cette direction-là, mais moi, pour moi, Raccoon, je voulais vraiment un feat des bars. Là,
ben oui, c'est un parolier.
Ouais, exact.
Juste avant qu'on se laisse, j'ai envie de te poser une question parce que j'ai dit qu'on allait laisser les gens écouter ce projet-là pour comprendre le concept, mais tu as dit aussi que tu allais partager une image ou du moins une explication qui va un peu mettre en contexte ce projet-là, Jenny Cassette. Mais est-ce que pour conclure cette entrevue, tu pourrais nous dire un peu en exclusivité comment on pourrait pas nécessairement interpréter le projet, mais comment est-ce que le projet s'enligne avec l'écoute?
Ben moi, tu sais, comme je disais un peu, pour moi, c'est l'album de vie. C'est basically l'album que j'ai toujours voulu faire.
OK.
Quand j'ai commencé la musique, c'est ça que je voulais faire, c'est cet album-là. Je pourrais arrêter la musique demain, je serais quand même satisfait. C'est vraiment, je me sens accompli avec ce projet-là. Fait que, dans le fond, c'est toute mon expérience, c'est toute ma vie, c'est un mélange de tout ce que j'ai vécu, avec une touche qui est cinématographique, avec des images un peu. Je mets des situations qui donnent un peu des idées, mais c'est vraiment par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu. C'est vraiment ça. Mm-hmm.
Super, ben ça conclut bien cette entrevue. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller écouter ce projet-là, Gin and Cassette de Saint-Sucré. Écoutez toute sa discographie, ça vaut la peine. Il y a Days and Confus, comme on a parlé au début de l'entrevue, qui vaut la peine aussi, qui est dans ce boom-bap-là. Puis si vous appréciez surtout le rap moderne, puis, si je pourrais dire ainsi, ben il y a My Bad, même Ma Bad, qui vaut l'écoute. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et de passer à Chérie J'arrive. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir en personne prochainement, si jamais tu viens à Québec.
Yes, merci à toi, gros shout.
Salut.
Ciao.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à La Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Go-getter. I'ma go get it. Dansez-vous du rap, je sais, je suis sur argent. I'ma go seller. I gotta go, baby. I gotta get city. Je laisse ma peau, ayy. Viens gratter la pelle, hey, yeah. I gotta go, baby, I gotta get. Si tu me connais, tu connais la recette. J'suis dans le game que pour casser des gueules. Connais le clan que pour casser les codes. Ce que j'apprends, ce n'est pas à l'école. Je mâche mes mots et je mets la gomme. J'ai peur du vide que dans mes paroles. Je fais argent et je verse alcool. D'ici, j'attends pas de fumée. Ni aucun traitement de faveur. Et je sais me fier aux odeurs. Si tu me connais. J'suis une go-getter. I'ma go get it. Dansez-vous du rap, je sais, j'suis de argent. I'ma go seller. Vas-y go get it. I'ma go get him. Passez-vous du rap, je sais, je suis de argent. Shoot and go get it. détient leur âme. Beau garçon, le rince. Pas de mots que d'action. J'ai mon rêve à fond, il faut qu'on me passe. Et même quand je chienne, eh ben j'y vais quand même. Baby, I know what I want. Quand je suis à fond, yeah, I don't give a damn. J'accours toujours et j'ai plus envie de kicker. Ça tourne autour du pot, veut pas entendre vérité. J'avance beaucoup trop vite, ça en laisse terrifié. C'est que j'ai un jeu parfait, c'est mon bébé à vérifier. Si j'attends un peu de fibre, n'y a aucun traitement de faveur. Et je sais me fier aux odeurs. Si tu me connais, je suis une go, je suis une go, je suis une go-getter. I'm a go, I'm a go, I'm a go get it. Dansez votre rap, je sais juste de argent. I'm a go, c'est là. Vas-y go, vas-y go get it. I'm a go, go get it. Dansez votre rap, je sais juste de argent.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. J'ai eu une entrevue avec le rappeur Saint-Sucré. J'ai parlé avec Alex Bayarjon, le directeur de programmation qui fait sa chronique Le gars des vues. Il m'a parlé du gala des prix, les prix Gémeaux. Et je parle maintenant de cinéma, de party mix. Je suis avec Émy Lapointe de Impact Campus. Salut Émy, ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui, super content de te parler aujourd'hui. Tu veux me parler d'une chronique que tu vas poursuivre la semaine prochaine. Tu veux me parler, j'ai pas trop compris, je savais pas si tu me parlais du chanteur de Kiss ou si tu me parlais d'une série. Tu m'as dit, je veux parler de Slasher.
Oui, mais dans le fond, j'ai juste quatre passions. Nelly Arcand, le portrait de la jeune fille en feu, Harry Potter, puis les films de Slasher. Qui est un type de film d'horreur. Là. Fait que c'est tout ce qui est... les vendredis 13, les Halloween,
Scream,
qui va être l'objet de ma prochaine chronique parce que je pense que Scream mérite un plus long temps d'écoute parce que c'est bon, on en reparlera, mais c'est comme le premier type de slasher qui a commencé à rediscuter des codes.
OK, donc slasher, c'est un
sous-genre de film d'horreur.
OK, je pensais que c'était une série,
de film d'horreur, puis tu sais... on s'entend, là, tout ce qui est cinéma de science-fiction, d'horreur, c'est des genres qui sont extrêmement codés.
Ouais.
John Carpenter, d'ailleurs, là, qui est comme le réalisateur de la série, du premier Halloween, disait que tout ce qui est les films de prequel, sequel, reboot, bon, etc., c'est littéralement aller voir le même film chaque fois, mais c'est ce que les gens veulent aller voir, selon lui. Puis il dit pas dans un ton méprisant, je veux dire, le gars, c'est un réalisateur de films d'horreur puis de science-fiction, mais c'est plus dans un... Tu sais, il y a une part de rituel quand tu vas voir ces films-là.
Il est en train de critiquer la structure puis la recette qu'on répète à chaque fois.
Absolument, puis tu sais, d'une part, mais d'autre part, c'est quand même une recette financière qui marche, on va pas se le cacher, puis... comme public, ben c'est comme la partie du rituel quand tu vas voir ces genres d'œuvres-là. Puis aussi, un espèce de sentiment d'expertise qui se dégage de ça parce que tu maîtrises les codes, tu comprends. T'es comme, là, je sais que c'est telle personne. Parce que puis c'est des codes que tu intériorises puis que tu comprends puis tu te sens comme bon de comprendre puis de maîtriser.
Mais en même temps, je pense qu'on en parlait à ta dernière chronique. Excuse-moi, t'as coupé. On parlait du portrait de la jeune fille en feu, que c'est des codes qui sont quand même assez difficiles pas nécessairement à comprendre, mais que tu peux l'interpréter de diverses façons, tandis que des recettes comme ça, une fois que t'as compris, ben c'est pas mal, entre guillemets, straightforward.
C'est pas mal toujours la même chose. C'est pour ça que Scream est intéressant, justement, parce qu'il négocie... Il se met à cheval entre ce qu'on veut voir la même chose puis nous surprendre un petit peu. Là,
réinventer,
puis critiquer le genre en tant que tel parce que les films d'horreur, c'est quand même dans les films les plus sexistes là, souvent. Là, c'est pas une grosse surprise. Puis, en gros, là, juste pour qu'on... mettons, si on s'entend sur une définition, il n'y a pas de définition fixe du genre slasher, mais en gros, là, c'est toujours un tueur masqué qui tue à l'arme blanche. La plupart du temps, ses victimes, ce sont des femmes. Sexuellement active.
OK.
Puis il va y avoir une final girl, qui est la fille qui va le mettre hors d'état de nuire ou qui va survivre assez longtemps, mettons, pour que la police arrive. Mm-hmm. Puis souvent, cette fille-là est virginale, donc elle n'a pas de relation sexuelle. Mm-hmm. Puis tu sais, ça va arriver là, qu'il y a des hommes qui meurent là, dans les films de slasher, mais le plus souvent, c'est par accident, c'est comme un dommage collatéral. Ouais. Alors que dans les films de slasher, traditionnellement, les femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Puis bon, là, ça montre un motif qui est classique, qui est un leitmotiv là, du slasher, c'est le dead by sex. Mm-hmm. Si t'as du sexe dans un film de slasher, tu te fais tuer. Mm. C'est le pouvoir de la virginité.
C'est un peu j'ai envie de dire, normatif catholique un peu.
C'est très, très normatif catholique. Puis en théorie, on donne comme père du slasher John Carpenter avec mm-hmm. Halloween. Ouais. Après ça, il y a des précurseurs, entre autres Psycho d'Alfred Hitchcock, puis aussi un film qui s'appelle Peeping Tom de Michael Cowell, je pense, qui, dans le fond, ça, c'est un film où le gars, il tue des filles qui filment avec sa caméra, puis il y a une lame qui sort au bout de sa caméra. Là. Fait que, t'sais, c'est littéralement la matérialisation de la mort par le regard. Là,
Ben justement, puis Victim, la traduction, c'est le voyeur.
Oui, mais c'est ça. Fait qu'ils ont pris dire... l'essence du film. Ouais, ils ont vraiment fait ça. Après ça, il y en a d'autres qui vont dire que c'est Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper. Ou Black Christmas, qui l'est peut-être un peu plus que Texas Chainsaw Massacre. Mais la raison pour laquelle, mettons, moi, je dirais pas que c'est les films fondateurs du genre, c'est que c'est pas eux qui ont établi le canevas. Le canevas a été établi par John Carpenter, puis qui a même situé l'action dans une banlieue américaine moyenne aisée. C'est pas mal toujours le décor qu'on va retrouver, du moins dans la plupart des franchises. Fait que c'était certainement pas volontaire de la part de Carpenter. Même les suites, lui, il voulait pas faire de suites, il voulait juste faire un film. Puis là, est-ce que tu l'as vu?
Oui, ben je me rappelle quand tu me parles de ce film-là, à chaque fois le fameux téléphone, puis les appels qu'il reçoit, c'est puis aussi ben on peut pas passer à côté de quand il arrive avec le couteau puis tu le vois en arrière, c'est
quand même effrayant là.
C'est un classique.
T'sais. Ouais, puis c'est vraiment des scènes. Même les gens qui ont pas vu, c'est comme Psycho. Tout le monde, personne n'a vu Psycho finalement.
Mais quand on en parle, on a l'impression de connaître ça.
Ouais, parce qu'on a vu la scène du rideau de douche, tout le monde l'a vu mille c'est fois. Puis dans la scène d'ouverture d'Halloween, c'est... On suit juste... tu te rappelles, la semaine dernière, on a parlé du male gaze, qui était comme cette idée-là que le spectateur, la caméra, puis le personnage forment comme une instance qui passe par toujours le même regard hétérosexuel, bon, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant dans Halloween, c'est que John Carpenter utilisait beaucoup la Steadicam. C'est-à-dire que, bon, là, ça venait d'être... on a commencé à utiliser ça au cinéma, c'est une espèce de caméra qui permet des vues subjectives stables. Fait que t'as vraiment l'impression d'être dans les yeux du tueur. Fait que ça enlève une instance. On passe directement du personnage au spectateur. Mm-hmm. Fait que là, on pourrait se dire, ah, ben là, on s'identifie plus facilement au personnage. Mais en même temps, Michael Myers, qui est le tueur de Halloween, il n'a aucune personnalité, aucun trait de caractère, on le connaît pas. Mais dès la première scène, on est dans ses yeux. On le voit qu'il y a un masque. Il regarde quelqu'un avoir une relation sexuelle, qu'on comprend être sa sœur, puis il la tue. Des années plus tard, il se fait échapper, puis là, il se met à poursuivre, évidemment, des jeunes gardiennes d'enfants, blanches, quand même belles, j'imagine, pour les standards de l'époque. Puis il va avoir ça, là, les deux femmes qui ont une relation sexuelle se font tuer, alors que, la final girl en aura pas. Puis il y a comme... La première vision qu'on a vue, c'était... Michael Myers est un peu... la religion incarnée au sens où la fille qui a des rapports sexuels est punie en se faisant tuer, puis la virginale est récompensée. Mais dans les dernières années, il y a d'autres lectures qui ont été faites, puis ils ont fait, s'ils montrent autant de scènes de sexe, ça peut pas non plus être le message qu'ils voulaient véhiculer, parce que si t'es contre la sexualité, contre ça, pourquoi tu le montrerais autant à l'écran? Fait que pour certains, c'était l'espèce de combat entre la jeune génération, plus libertine, puis Michael Myers, qui représentait un petit peu plus le côté
conservateur.
Puis que la victoire de la final girl, c'était la victoire de la jeune génération. Sauf que là, c'est comme, ah ouais, c'est vraiment intéressant comme lecture, sauf qu'il y a un problème, c'est que la final girl, elle a pas de sexe.
Donc, elle est pas assumée.
Elle est pas assumée. Fait que là, on se retrouve avec comme... Puis il y en a qui disent oui, mais dans les opus qui vont suivre, elle va vraiment se libérer sexuellement, puis tout ça. Sauf que à mon avis, c'est un argument qui tombe à l'eau parce que John Carpenter avait l'intention de faire un seul film.
Mm-hmm.
Fait qu'on peut pas... alors que Scream, par exemple, a été construit comme une trilogie d'abord.
Mm-hmm.
Pour ça, il y a eu le 4 qui s'est greffé. On en parlera, il est peut-être pas si terrible que ça. Là.
Ouais.
Mais donc, il y a comme... Les deux lectures sont un peu lacunaires, puis après ça, je pense qu'elles peuvent coexister puis que ça peut être juste des strates de compréhension puis que c'est pas grave de pas trancher.
Ouais. On va y aller en musique.
Ouais.
On va revenir pour continuer de parler de ce genre de sous-genre de film d'horreur qui s'appelle le slasher. Vous écoutez Chérie, j'arrive et c'est la chronique Party Mix. On revient pour continuer cette chronique. Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est la chronique Party Mix avec Émile Lapointe. On parle de slasher qui sont un sous-genre de films d'horreur. On parle de tueurs masqués à l'arme blanche sur des femmes pour les punir de leur activité sexuelle. On peut continuer dans cette direction-là. Vers où veux-tu aller?
Quand même un bon résumé là, du genre. Mais je veux qu'on revienne un petit peu là, sur peut-être Texas Chainsaw Massacre puis ouais. Black Christmas, qui sont quand même intéressants. Puis que même si nous, on les considère pas comme les pères du genre, clairement, ça a influencé beaucoup, beaucoup John Carpenter. Mm-hmm. Dans Texas Chainsaw Massacre, il faut savoir que c'est une production quasi amateur. Là, mm-hmm. C'est quasiment un fan film. Puis, par contre, il n'y a pas beaucoup de relations à la sexualité dans ce film-là. Puis contrairement au slasher maintenant, la Final Girl n'est pas vraiment identifiable dès le début, alors qu'habituellement, ça prend 5 minutes. Tu vois la brune parmi les blondes, tu fais OK, ben c'est elle, la Final Girl. Mm. C'est elle qui passe le balai, mettons. Là. Puis, il y a quand même, pour le niveau de la diffusion du film, souvent, dans ces années-là, les années 70 et puis 80, les films d'horreur, surtout trash, étaient diffusés dans des doubles représentations. Fait que t'avais, mettons, en première partie ça, puis en deuxième partie, un film érotique. Fait que c'est difficile de pas voir là un espèce de rapprochement quand même entre les deux. Puis, je pense qu'il y a un rapprochement à faire dans les films d'horreur entre la suggestion, puis le gore, puis l'érotisme, puis la pornographie. Mm. Tu sais, souvent, les meilleurs films d'horreur, c'est ceux qui suggèrent plus qu'ils montrent.
Ouais.
Il y a un film, je pense, entre autres, un film qui s'appelle Babadook. On n'est pas du tout dans le registre des slashers. Là. On mm-hmm. est plus dans un univers cauchemardesque d'enfants. Un enfant qui lit un livre pour enfants, puis il y a comme une espèce de monstre avec un chapeau noir qu'on ne sait pas trop c'est qui, puis on finit par jamais le voir, le Babadook, dans tout le film, mais on a vraiment peur de le voir parce que, justement, on le voit pas.
Ouais.
C'est comme quand t'es dans l'océan puis tu vois pas en dessous, c'est ça qui fait peur.
Oui, je comprends le feeling.
Fait que c'est ça, puis versus puis l'érotisme qui est dans la suggestion, dans ce qu'on imagine, alors que dans la pornographie, puis on condamne ni l'un ni l'autre, là, mais dans la pornographie, on est plus dans la... On nous montre. Il y a pas place à l'imagination.
Mm.
Même chose dans les films de slasher, puis... Plus on avance dans les franchises de films de slasher, plus on est trash,
mais,
plus le body count augmente.
Mais je veux dire, tu nous parles de justement de un peu le penchant ou le jeu de parallèle entre l'érotisme et la suggestion dans les films d'horreur. Peut-être que c'est ma conception trop trop critique sur ces films-là, mais même si tu me dis que ça montre beaucoup et que ça se veut vraiment d'horreur, le fait que ça soit un peu... Je veux dire, c'est tellement trop montré que c'est un peu risible parfois.
Mais c'est absolument risible, puis...
au même niveau que la pornographie trop intense, c'est visible aussi.
C'est trop. Puis, justement, dans toutes les franchises qu'il y a eu, ça a plus de bon sens. C'est souvent, justement, si on prend la franchise d'Halloween, le premier, Michael Myers, c'est une menace qui est assez tangible. Mm-hmm. Mais écoute, dans les opus, il revient à la vie. Parce que, tu sais, il meurt là, à la fin du premier, il se fait tirer dessus par son ancien psychiatre. Mais dans tous les opus, par ça, il y a plusieurs. Il y a comme des univers parallèles, là. Il y a plusieurs fins. Des univers alternatifs, pas mal. Là. Puis c'est parce qu'il y a plusieurs gens qui se sont appropriés l'histoire.
Ouais.
Mais, tu sais, le tueur revient à la vie. C'est le cas aussi dans la série Vendredi 13. Puis là, on est rendu Jason à Manhattan, Jason dans l'espace.
Ouais.
On enchaîne vraiment les... Puis il y a quelque chose de vraiment drôle. Là. Puis il y a... Honnêtement, c'est plus effrayant. Là. Moi, ça me fait mourir
c'est
de ça. Rire. Il y a une scène, je sais plus c'est dans lequel, je pense dans le 7 ou dans le 8, la fille, elle mange sa banane. Fait que, tu sais, super le gros symbole phallique cliché là, que tout le monde voit, puis la manière dont elle la mange, puis elle se fait juste transpercer la gorge par derrière, mais c'est pas si gore que ça.
Mm-hmm.
Puis elle fait juste cracher sa petite banane écrasée. C'est vraiment... C'est un super mauvais plan de caméra. Tout est horrible dans le film, puis... Il y a ça dans le cinéma de consommation, c'est que forcément, ça va vite, mais il y a quand même des espèces de grilles d'analyse sociale qu'on peut faire après ça par rapport à tout ça. Black Christmas, c'est un film qui est canadien d'ailleurs, Black Christmas, qui se passe dans... Ça ressemble beaucoup plus à Halloween, ça se passe dans une sororité. Fait que là, on est vraiment dans l'intimité des personnages féminins.
Mm-hmm.
Le tueur n'est pas forcément masqué. Puis tu pas nécessairement à l'arme blanche, mais tu sais, puis la relation entre la sexualité puis la mort est pas clairement établie, mais tu sais, il va tuer avec des objets vraiment phalliques là, tu sais, courbés, puis qu'il y a pas de doute sur la nature.
Mm-hmm.
Fait que ça, je pense que c'est un de ceux qui a le plus influencé. Puis outre ça, il y a un genre en Italie qui s'appelle les giallo, qui est un... Souvent c'est l'histoire de... Ben, c'est un meurtre ou un tueur en série, mais la victime est souvent une femme aussi, mais il y a pas autant de victimes, puis on est plus dans le thriller, dans l'enquête. J'ai vu récemment un film qui s'appelle Profondo Rosso, Rouge Profond. Puis c'était sur un... Puis c'est un film 75. Visuellement, superbe. La trame de son, super nulle. La musique est super mauvaise. Tu sais pas si c'est dans Jumanji ou dans un thriller. Mais on voit certainement des... Peut-être moi qui vois des liens partout entre les films, puis peut-être que les réalisateurs n'ont pas vu tous les films du monde, mais j'ai vraiment l'impression que ça avait quand même influencé John Carpenter dans son travail, puis même Wes Craven dans Scream. Puis pour un film de l'époque, il y a quasiment une dénonciation, parce que, bon, la personne qui est responsable du meurtre le fait pour des raisons qui sont pas, absolument pas légitimes, et qui, au final... en fait, cette personne-là a fait un premier meurtre, qui était le meurtre de son mari, parce que celui-ci, bon, la forçait à aller en psychiatrie, à se médicamenter. Il y a une espèce de domination psychologique qui s'opérait. Fait qu'elle, elle a fini, bon, elle a tué. Puis après ça, c'est comme une suite, bon, de cause à effet qui a fait qu'elle n'a pas le choix de tuer d'autres personnes. Mais...
Elle n'a pas le choix.
Non, mais elle n'a pas le choix. Mais des fois, tu n'as pas le choix, tu sais. Tu prends les moyens que tu as. Puis il n'y a pas une condamnation non plus de son geste qui est faite. On est plus dans la... On suspend quand même le jugement par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de... Notamment là, dans les films de slasher, il y a comme le miroir, les portes de garde-robe qui reviennent tout le temps,
ouais.
Qui est vraiment présent dans ce film-là. C'est ce qu'on appelle des tropes en cinéma.
Okay.
C'est une espèce de motif, ça peut être au niveau formel, ça peut être au niveau du fond, qui reviennent toujours. Le Dead by Sex en est un. Mais la fameuse porte de garde-robe que tu fermes, puis que quand... En fait, que tu ouvres, puis que quand tu refermes, il y a quelqu'un, ça, c'est un trop. Le popcorn, c'est un... T'sais, les films de slasher, le popcorn qui explose sur le fond, sur le feu, là. Le téléphone, c'est tout des tropes, c'est des choses qu'on... Des mécanismes qu'on
des utilise.
Ou souvent... justement, on parle bon du téléphone, mais souvent, les victimes se retrouvent toujours à l'étage. Pour, t'sais, sont dans la cuisine à se faire du popcorn qui brûle. Puis finalement, bon, elles se retrouvent à devoir monter à l'étage, alors qu'on est tous... Ben, c'est parce que c'est super dumb, tu sais, qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est un motif qui est présent dans le... dans Profondo Rosso, puis dans beaucoup dans Black Christmas, puis qui revient dans Halloween. Mais c'est un trope qui est négocié dans Scream.
Mais ça, on sortira pas d'écouter un film d'horreur puis de dire à quel point la personne, elle sait pas ce qu'elle fait. On non, s'en exactement. Sortira pas.
Mais quand même, c'est facile à juger, sauf que je sais pas ce que je ferais.
En situation d'horreur.
En situation d'horreur, là. Encore là, c'est le genre de théorie qu'on a beau se dire, moi, ce que je ferais, c'est mon plan A, mon plan B, ça fonctionne pas, je ferais ça. Mais tu sais, quand quelqu'un a une phase de cri, le genre d'Edouard Munch, là, on parle de Scream, avec un couteau immense.
Tu penses plus...
Tu parles au téléphone, quand même effrayant, là. Moi, je paralyserais, là.
On va s'en reparler la semaine prochaine pour que tu peut-être me trouves une solution quoi faire en situation d'horreur comme ça dans des films où on sait clairement qu'est-ce que l'acteur ou l'actrice ne devrait pas faire. Tu vas me parler plus précisément de Scream. Donc, c'est une chronique qui va se continuer la semaine prochaine à compter de mardi 16h30 pour Party Mix.
Absolument.
Donc, merci, Amy, d'être passée en studio. On se revoit la semaine prochaine.
Bonne fin d'après-midi.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute CHIZ 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de CHIZ 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois
Chibam.
Qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'était la chronique Party Mix avec Émile Lapointe. Et maintenant, c'est une entrevue avec Catherine Côté qui a écrit, mis en scène, qui a même la compagnie Mon père est mort, qui est la compagnie théâtre qui est arrivée avec cette production-là, Renverser à la nana, qui est en première ce soir au Théâtre Premier Acte. Salut Catherine, ça va bien?
Allô, ça va bien toi?
Oui, super content de te parler en cette journée de première de Renverser à la nana. On va pouvoir parler de cette pièce-là, parler de cette conception, de cette création-là. On peut commencer par le début. T'as voulu parler de la cuisine, de la féminité, parler du rôle de la femme dans la société. Tu parlais j'ai lu le mot de l'auteur qu'on donne dans le dossier de presse, et tu parlais justement de la famille dans laquelle tu as grandi, des valeurs qui ont été transmises, d'une famille plus conservatrice. Qu'est-ce que cette pièce-là signifie pour toi au niveau des valeurs qui t'ont été inculquées puis t'as peut-être voulu démentir par après, ou qu'il y a peut-être, je dirais, plus d'autres valeurs qui t'ont semblé être les tiennes. Comment est-ce que tu t'es montré dans cette pièce-là?
Mon Dieu, plusieurs choses
oui,
dans ta
ça,
question.
C'est ça, excuse-moi.
Non, c'est correct. Ben, c'est comme si, genre, je suis devenue une adulte il n'y a pas si longtemps,
okay.
On dirait, dans ma tête. Puis j'ai réalisé que, évidemment, mes grands-mères allaient comme mourir prochainement, mais que c'était aussi toute une génération qui allait disparaître. Hmm. Puis que c'était à moi, à ma génération, de jouer. Tu sais, que c'était okay. à nous de, ben, d'améliorer le monde, en oui. fait.
Puis, d'agir, oui.
Oui, d'agir, exactement, pour le mieux, on l'espère. Puis je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais garder du leg de ma grand-mère puis mm-hmm. de ma mère? Tu sais, de quoi, qu'est-ce que je veux garder puis de quoi je préférerais me départir?
Oui.
Puis ça, je pose la question, mais je pose la question comme génération dans ma pièce, évidemment.
Ouais.
Puis c'est dans le but d'améliorer notre bonheur collectif, de faire avancer la cause des femmes et de, pour le futur, de mettre au monde une société plus égalitaire et bienveillante.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça mon objectif.
Puis après une journée électorale, après une campagne électorale où on parlait beaucoup de vivre ensemble, de finalement savoir comment agir les uns avec les autres, tu abordes dans ta pièce, entre autres, le côté de la cuisine, de cette tradition-là qu'on veut passer de génération en génération. Peut-être des fois aussi, il y en a qui voudront pas, comme tu le dis, peut-être qu'ils vont préférer se tourner vers d'autres choses pour léguer ça. Donc, on va revenir au tout début. Avant que ce texte-là existe, comment t'as commencé en disant « c'est comme ça que je vais le raconter » ?
Ben, premièrement, j'ai vraiment une affection pour la cuisine. Tout ce qui touche la bouffe, c'est très émotif.
Autant d'en faire que d'en manger.
Oui, tout à fait. Puis tout ce qui a trait au rituel de la bouffe et de manger ensemble, de mettre s'asseoir. La table. Oui, exactement. Donc, il y avait ça, puis je partageais aussi un lien particulier avec le fait de faire à manger avec ma mère et avec ma grand-mère.
Ouais.
Donc, il y a ça à la base qui est inscrit en moi. Puis, j'avais le goût de... Pour moi, la cuisine, là, tu sais, c'est le lieu du travail, de l'imperfection, puis de la vérité. Puis okay. c'est ça que j'ai mis sur scène. T'sais, on n'est pas dans la salle à manger où tout est parfait, la bouffe est belle, les conventions sociales.
On chine, on dit
oui,
bon appétit.
Oui, c'est ça. Non, okay. non, là, on est comme dans la coulisse de la soirée, t'sais, ouais. la cuisine. Puis j'avais le goût aussi, dans l'optique de parler de la cause de la femme et d'enjeux féministes, de mettre en scène la pièce qui a longtemps été considérée comme le royaume de la femme, mm-hmm. la cuisine,
mm-hmm.
puis d'essayer de... un peu m'approprier le lieu différemment, puis de l'investir différemment pour en faire un lieu de révolution, de ouais. discussion, de prise de parole, et bien sûr, de party, parce que ouais. la cuisine au Québec, c'est là où on fait le party.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Fait que on peut parler aussi de cette tu parles de, finalement de l'atmosphère qui est avec cette pièce là comment est-ce qui est arrivé cette distribution là et cette mise en scène. On peut peut-être commencer par les femmes que tu as choisies pour j'ai envie de dire faire vivre ce texte là
ouais ben la création a débuté dans ma tête il y a 3 ans.
Okay.
La pièce durait 10 minutes.
Donc, c'était plus un court-métrage théâtral.
Oui, un genre de performance théâtrale là, où j'avais déjà l'ambition de faire l'histoire des femmes en parallèle avec l'histoire de la cuisine en 10 minutes. Et même dans le show, ça a pris le bord en 1h40. On peut pas faire ça en si peu de temps.
Mmh.
C'était trop ambitieux. Et déjà là, il y avait Linda Laplante et Valérie Boutin qui faisaient partie de cette courte performance-là.
Ouais.
Et en 2019, j'ai fait un laboratoire au chantier construction artistique.
Oui.
Puis là, j'ai complété ma distribution. J'ai décidé que ça allait être un show avec 5 femmes, 3 générations.
Mmh.
Donc, Véronique Aubu qui joue la grand-mère. Linda Laplante, donc, qui est toujours là, qui joue la fille de la grand-mère. Valérie Boutin joue la fille de Linda Laplante. Et là, c'est ajouté aussi à la distribution Sylvie Quentin, qui joue la fille de la grand-mère, et Nathalie Séguin, qui joue la fille de Sylvie Quentin. Et c'est un peu mêlant, mais en
on
cas,
a une grande famille.
On a une grande famille. Puis je suis très fière de ma distribution. Là. Les comédiennes sont extraordinaires. C'est des comédiennes de talent, de mm-hmm. métier, qui sont généreuses. Et ben, c'est le fun aussi d'engager des comédiennes de générations différentes, parce
tout
que ça amène vraiment... un partage en salle de répétition.
On parlait de traditions culinaires qui sont mises de génération en génération, mais c'est une tradition théâtrale aussi, un peu, cette pièce-là qui est une expérimentation. En tout cas, c'est pas à proprement parler ça, mais indirectement.
Oui. Comme artiste, les femmes avec les comédiennes avec plus d'expérience nous ont partagé leur expérience, mm-hmm. nous ont légué aussi un peu de leur savoir, c'est certain.
Tout à fait. On disait en début d'entrevue que ça va être en première au Théâtre Premier Acte aujourd'hui. Le public peut s'attendre à quoi au niveau de directement du visuel, de l'ambiance, la pièce? On peut s'attendre à quoi?
On peut s'attendre à une cuisine.
Évidemment.
Un décor magnifique fait par Jeanne Huguenin, qui est scénographe. On peut s'attendre à rire, je pense.
OK.
À être touché, à avoir faim. Puis... je pense à embarquer dans l'histoire là, complètement parce que on y croit, je pense, à cette famille-là. Puis on est vraiment témoin de leur moment de joie, mais aussi de leur moment d'angoisse, de leur élan d'amour mal géré. Mm-hmm. Je pense que le public va s'attacher réellement à cette famille-là.
Mm-hmm. Donc une comédie dramatique qui faut arriver le ventre plein.
Exactement.
C'est un peu comme ça que je vois renverser à l'ananas. On va y aller en musique pour un peu espacer cette entrevue-là, mais au retour, s'il veut bien, on va continuer de parler de renverser à l'ananas.
Avec plaisir.
Avec Airplane de Janet King. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
You miss me, but that I don't buy. All of me, it's taking almost all of me to give you my love. Though you're leaving me behind, I'm not like your other lovers. I don't want moments, I don't need to.
Vous êtes de retour à Chérie J'arrive. Je suis avec Catherine Côté qui a écrit et mis en scène la pièce Renverser à la nana. C'est en première ce soir au théâtre, premier acte. On parle de cuisine, on parle de drame, de comédie, on parle de femmes. On parle de d'autres choses.
Oui, on parle d'Alzheimer, on parle de mémoire, de comment s'occuper des personnes âgées, qu'est-ce qu'on fait avec elles lorsqu'elles sont vieillissantes.
On parle de solitude, j'imagine, aussi un peu.
Non, les femmes sont assez solidaires malgré tout.
OK. Mais je faisais le lien avec les personnes âgées, oui, la solitude.
Oui, ben en fait, un des personnages ne laisse pas seul Marguerite, la grand-mère, donc on parle moins de solitude.
D'accord.
Mais on parle de santé mentale, on parle beaucoup de relations mère-fille également.
OK. Ouais. Ben, de quelle façon est-ce qu'on en parle? Parce que en ronde, on parlait de justement dresser le portrait, de faire le résumé de cette pièce-là. On en parle comment de ces relations mère-fille, etc.?
En fait, on en parle de façon assez hyper réaliste. L'histoire se passe sur un peu plus d'une année où on va suivre les tribulations de 5 femmes d'une même famille. Mm-hmm. Donc, comme je disais, de 3 générations différentes.
Ouais.
Puis quand le spectacle commence, le rideau s'ouvre et le patriarche de la famille est décédé.
D'accord.
Donc déjà, la grand-mère commence à perdre un peu ses repères, t'sais. Et là, les femmes vont se rendre compte que la grand-mère est atteinte d'Alzheimer lorsqu'elle va oublier la recette du classique familial, donc la recette du gâteau renversé à l'ananas, bien sûr. Puis, dans le fond, l'histoire qu'on va suivre, c'est ces deux filles, Maryse et Madeleine, à savoir comment elles vont réagir à la maladie de leur mère, à sa perte d'autonomie. Évidemment, elles vont choisir de gérer la situation de façon complètement différente. Elles vont avoir de la misère à s'entendre et tout. Et c'est ce qui est intéressant. Et leurs deux filles, à elles aussi, vivent des situations très importantes. Et ça va venir vraiment déstabiliser encore plus les deux femmes. Et ça va venir même remettre en question les choix qu'elles ont faits par le passé et leurs valeurs. Parce que le personnage de Charlotte, là, qui est début trentaine, elle décide de quitter le droit, puis elle retourne à l'école en communication, puis elle est comme, c'est-tu vraiment ça la vie que je veux? Là? Elle est comme un peu overwhelmed là, par la société de performance, puis elle se questionne vraiment à savoir, genre, moi, je veux-tu genre plus une famille ou genre une carrière? Là, bien sûr, on peut faire les deux, mais là, Charlotte est comme...
Ou aucun des deux.
Ou aucun des deux, ouais. Carrément. Mmh. Carrément, carrément. Puis, tu sais, on a le personnage de Violette, l'autre trentenaire, qui, elle, se part un resto, parce que tout a rapport à la bouffe, bien sûr. Et qui, là, elle va décider de dénoncer son collègue de travail pour harcèlement sexuel. Et là, voilà qu'on aborde les dénonciations. Et fait que c'est ça, ça l'amène vraiment comme un déséquilibre fondamental chez les personnages des deux mères.
Un déséquilibre d'être choqué par ces nouvelles conceptions ou...
Ouais, puis aussi, c'est ça, ça vient comme remettre en question les choix qu'elles ont faits par le passé par rapport à leur carrière, par rapport à leur famille, dans quoi elles ont mis leurs énergies et c'est quoi leurs valeurs. Puis ça vient chercher aussi toute la question des relations mère-fille qui est un sujet dont je trouve qu'on parle tellement pas assez, là. Au début, quand je voulais écrire le spectacle, tu sais, c'était aussi parce que je trouvais qu'il manquait de show où on parlait des relations mère-fille. Puis quand j'en trouvais, j'étais comme « Non, c'est pas ça que je veux. » Et que là, j'ai écrit le show que je voulais voir.
Parce que comment il l'aborde? C'était la façon qu'il l'abordait?
Oui, c'est comme si, pour moi, les relations mère-fille, c'est tellement fondamental dans notre identité. Puis c'est tellement délicat, puis... Même avec nos parents, là, tu sais, je dis la relation mère-fille, mais la relation parent-enfant, c'est tellement difficile dans le sens où souvent, on gère mal notre amour. Là, tu sais.
Ouais.
On a autant des élans de colère, d'impatience, mais d'où jaillisse un amour infini. Tu sais. Fait que c'est ça que je voulais montrer, ce côté-là malhabile dans la communication, dans les relations.
Okay.
Dans l'hyperréalisme.
Tout à fait. Ben, je suggère les gens d'aller écouter cette pièce-là. Ils ont 15 jours de représentation qui vont avoir la chance d'aller voir Renverser à la nana. J'ai envie de te laisser conclure par le mot de la fin. J'ai l'habitude de finir mes entrevues comme ça. Donc, mot de la fin, ça peut être salutation, ça peut être une citation philosophique, ça peut être un conseil, ça peut être tout ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin.
Je dirais aux gens de rapidement acheter leurs billets parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à cause des mesures sanitaires. Et je pense qu'ils vont passer une très belle soirée. Puis si le spectacle leur a donné faim, eh bien, ils peuvent aller déguster un gâteau renversé à l'ananas à la cuisine après le spectacle lors de toutes les représentations.
Quel bon conseil. Merci Catherine d'être
passée.
Merci
à toi.
Et c'est déjà le temps de conclure en ce mardi 21 septembre. C'était l'émission Chérie, j'arrive. Et de quoi est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? J'ai commencé avec Alex Baillargeon pour la chronique. Le gars des vies m'a parlé du prix Gémeaux, des Gémeaux, qui était en fin de semaine. J'ai parlé aussi avec le rappeur Saint-Sucré pour son projet Gin et Cassette, des collaborations entre autres avec Cat Boot, Raccoon, JC, Cora Madina, Exela, Edna. Un projet qui vaut la peine d'être entendu. J'ai parlé aussi avec Émile Lapointe pour sa chronique Party Mix. On a parlé des slashers qui sont un sous-genre de films d'horreur. On continue ce sujet-là avec la chronique qui va se poursuivre mardi prochain. C'est une chronique hebdomadaire qui s'appelle Party Mix et c'est de Émile Lapointe, celle qui est rédactrice en chef de Impact Campus. J'ai parlé aussi avec nul autre que Catherine Côté qui a écrit et mis en scène la pièce Renversée à l'Ananas. Ça commence ce soir au Théâtre Premier Acte. Manquez pas ça. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour aller voir cette pièce qui parle de famille, de cuisine, de féminisme. Ça parle de plein de sujets d'actualité et des sujets qui vont satisfaire à tout public. Donc, je vous invite à aller prendre vos billets au Théâtre Premier Acte. Ça vaut la peine. On se revoit demain, évidemment, Chérie, j'arrive. Ça continue. C'est tous les jours de 16h à 17h30. Demain, il va y avoir les chroniqueurs habituels, dont Nathan Murray, Xavier Gagnon. J'ai une entrevue aussi avec Philomène Lompré. Donc, manquez pas ça. Et ben, pour le reste de la semaine, je vous ai prévu encore une fois des chroniques, des entrevues. On continue de parler d'art et de culture à tous les jours à Chiz 94.3, à Chérie, j'arrive. Je vous dis donc, bonne soirée. Bye bye.
Les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi! Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.